France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, pourquoi la musique nous fait-elle du bien ? Question posée en ce 21 juin, premier jour de l'été et surtout jour de la fête de la musique, une tradition désormais bien établie puisqu'elle date d'il y a 38 ans. La première avait eu lieu en 1982. Ce soir, c'est l'occasion pour nombre de musiciens amateurs de jouer en public. Alors bon concert à tous ceux qui vont se produire et à ceux qui vont les écouter. De notre côté ce soir, on va se demander pourquoi la musique adoucit les mœurs, comme on dit, pourquoi elle fait du bien à ceux qui en jouent et à ceux qui l'écoutent, car tout cela ne relève pas de la légende, c'est prouvé scientifiquement. Nous allons tenter de comprendre les mécanismes de ces bienfaits et voir en quoi ils peuvent être bons pour la santé, pour la vie en société. Nous sommes ce soir avec deux éminents spécialistes qui ont travaillé sur le sujet. Ils vont pouvoir nous éclairer, répondre à vos questions, donc sur les bienfaits de la musique sur la santé, sur les performances intellectuelles qu'elle induit. Alors profitez-en. À nos côtés ce soir, Hervé Platel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de neuropsychologie à l'université de Caen, auteur chez Odile Jacob d'un ouvrage intitulé « Le cerveau musicien ». C'est bien ça ?
Tout à fait.
Avec nous également Stéphane Guettin, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Docteur en psychologie clinique, vous êtes musicothérapeute, fondateur de l'application Music Care, c'est bien ça ? Alors surtout n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.
Claire Servagen, le téléphone sonne.
Et tout de suite un premier appel, celui de Christian qui nous appelle de Belgique, c'est bien ça Christian ?
Bonsoir. De Bruxelles, bonsoir.
Bienvenue à vous, vous êtes sur l'antenne de France.
De France Inter.
Ah ben je sais.
Ou des Belges sévissent d'ailleurs.
Voilà, c'est ça, il n'y a plus de frontières chez nous.
Non, non.
Alors dites-nous tout Christian. Vous êtes musicien ou vous êtes un amateur de musique ?
Pas du tout. Alors là, je suis totalement incapable de jouer du moindre instrument de musique. Et comme je ne suis pas du tout un émetteur de musique, j'essaye d'être un bon récepteur. Et je suis une plaque sensible, un fou amoureux de musique, mélomane. Contre les sectarismes, et je trouve que la musique est un trésor dans lequel chacune et chacun devrait puiser abondamment autant que possible, parce qu'elle embellit la vie, elle élargit les perspectives. La musique, c'est je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est le langage des dieux, quand on parle de vraie musique, évidemment.
Donc vous, ça vous fait du bien. Alors comment vous procédez quand ça ne va pas vous écouter de la musique, ou vous en écoutez de toute façon tout le temps ?
Pas tout le temps, mais j'en écoute très 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 souvent, notamment en travaillant. Je n'aime pas d'écouter de la musique en marchant parce que je préfère me concentrer sur ce que je vois autour de moi, et il faut pas être dans sa bulle quand on marche, en plus ça peut être très dangereux, on peut se faire écraser. Mais quand on est chez soi ou avec des amis d'ailleurs qui ont des goûts musicaux un peu semblables, c'est un bonheur absolu de s'envoler en écoutant certains artistes, certaines musiques, des belles compositions, et franchement, on est au-delà des mots, c'est vraiment un formidable moyen de communication, et avec cela, plutôt qu'être connecté, ce qui est la maladie de l'époque, on peut être relié, ce qui est 100 fois mieux.
Merci mille fois pour cette entrée en matière, Christian. Hervé Platel, Christian, il nous dit que la musique embellit la vie, c'est beau, il a raison.
Oui, tout à fait. Et elle est souvent un marqueur, la musique, les chansons qu'on aime bien sont des marqueurs de notre autobiographie, donc de notre vie personnelle. On a souvent une petite chanson qui vient de notre enfance, une chanson qui marque effectivement des événements particuliers. Et d'ailleurs, de manière assez étonnante, on a cette dimension autobiographique qui se retrouve même dans des cas pathologiques. Et j'ai en tête en particulier le cas très spectaculaire de ce boulanger d'une soixantaine d'années qui était dans le coma à Londres, et en fait sa femme avait dit laissez la radio, ça va lui faire de la compagnie. Et à un moment donné, il se réveille de son coma, c'était pas attendu, et il explique ce qui s'est passé. En fait, la radio a passé Satisfaction des Rolling Stones, et en fait il entend ça dans son coma, et il dit j'ai entendu cette chanson, et ça m'a rappelé que c'était le premier disque que j'avais acheté, et je me suis dit ah oui, quand même, la vie, ça vaut le coup d'être vécu. Et il se réveille.
Formidable. Stéphane Guettin, vous avez des témoignages, vous aussi, évidemment, des bienfaits de la musique ?
Ah bah oui, beaucoup, parce que c'est vrai qu'en travaillant dans les hôpitaux, j'ai eu plus de 1000 commentaires, témoignages, et si c'est pas beaucoup plus. Mais le premier témoignage qui me surprend, c'est effectivement les gens qui s'interrogent sur ce pouvoir de la musique, en me disant souvent, effectivement, je ne pensais pas que la musique pouvait avoir un tel pouvoir sur moi. Et les gens ne se rendent pas compte du pouvoir que ça peut avoir au niveau émotionnel, sensoriel et surtout social. Et je pense que ce qu'on retrouve un petit peu chez cet auditeur, C'est la, peut-être la fonction première de la musique, c'est de créer du lien social. Et c'est à partir de là que tout s'est créé. Le langage vient de la musique. Notre corps humain est un instrument de musique avec des fréquences cardiaques, respiratoires. Et donc l'univers entier est constitué selon des principes musicaux, comme le disait notre cher ami Platon notamment. Et donc c'est pour ça que la musique, on a une relation très très intime avec elle. Et je pense qu'elle nous accompagne effectivement tout au long de la vie. Et qu'elle marque, comme dit très bien Hervé, des moments comme des marqueurs qui permettront effectivement de nous aider au fur de l'évolution.
Alors on va essayer de comprendre un petit peu mieux pourquoi la musique a un tel pouvoir. Hervé Platel, à quel niveau elle agit la musique ? C'est au niveau de tout notre corps, au niveau du cerveau ? Comment ça se passe ?
Alors, bien évidemment, pour avoir un plaisir de la musique, il faut avoir un corps, il faut avoir un cerveau. Les deux sont indispensables.
Pas trop faux, hein.
Voilà, vous avez les deux, c'est parfait. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le plaisir musical, il n'est pas monofactoriel. En fait, il est plurifactoriel et c'est pour ça qu'il est complexe, parce que vous pouvez avoir du plaisir, parce que la musique, c'est d'abord une expérience sensorielle, acoustique, vous avez la puissance sonore de ces vibrations qui vous touchent corporellement, et ça, c'est déjà quelque chose qui peut vous provoquer le frisson. C'est une expérience sensorielle particulière, c'est presque un massage du corps, la musique, d'une certaine manière. Et puis la musique, eh bien, c'est quelque chose qui vous renvoie, on le disait tout de suite, à des aspects mémoriels, à votre histoire, vous l'avez entendu tout au long de votre vie. On est exposé à la musique depuis qu'on est bébé, et même avant, des fois, dans le ventre de notre mère. Donc, la musique, effectivement, qu'on on entend, on la compare toujours à celle qu'on a déjà entendue. Et beaucoup, en fin de compte, de personnes qui nous expliquent ce que c'est que le frisson musical, qu'on peut observer même en neuroimagerie, disent, bah oui, mais cette musique-là, ah oui, je la connais bien. Et puis là, il y a les violons qui arrivent. Et alors, ça monte. Ah, j'adore ça, et là j'ai le frisson. Donc on voit bien dans cet exemple que c'est bien construit par la reconnaissance d'une musique que l'on connaît, que l'on a déjà expérimentée. Donc il peut y avoir un effet nouveauté, il peut y avoir un effet mémoire. En fait, le plaisir musical, il se découvre sur plusieurs niveaux, et il y a même les plaisirs de l'esthète. Évidemment, j'aime beaucoup le jazz, et puis je regarde en fin de compte ce guitariste qui fait un super solo de jazz, et je lui dis, oh là là, c'est comme c'est bien fait. Et puis là, il le fait pas comme celui que je connais. C'est très original. Et là, j'ai le frisson aussi.
Stéphane Guettin, pour prolonger ce que dit Hervé Platel, ça veut dire qu'il faut apprendre à bénéficier de la musique. Vous disiez tout à l'heure, quelqu'un qui vous avait dit, je pensais pas que ça pouvait avoir un tel effet. Ça veut dire qu'il faut apprendre ou pas?
Je pense pas, justement, au contraire, parce que nous, c'est vrai que moi, avec la technique qu'on développe avec Musicaire à l'hôpital, c'est vraiment basé sur les principes de la sophrologie, de l'hypnose. Sauf qu'on va remplacer la suggestion verbale, qui induit cet état modifié de conscience, par le langage musical. Et on sait que la musique est le langage universel. Mais les gens, c'est vrai qu'en induisant ces tempos de plus en plus lents, de plus en plus relaxants, la musique va prendre directement sur tout le corps, et le patient se laisse surprendre sur cet effet apaisant, progressif, où la musique va l'amener justement à en oublier son corps et à en oublier ses douleurs. Et dans des cas très précis, effectivement, le patient est un peu surpris de cet effet que peut avoir la musique.
Vous intervenez auprès de personnes qui souffrent de quelle pathologie ?
Alors, principalement de la douleur. Moi, mes premiers stages universitaires hospitaliers, c'était chez les patients avec des douleurs rhumatismales. Sachant que j'ai beaucoup fait d'études aussi en service de neurologie, et récemment j'ai fait des études, donc j'ai passé beaucoup de temps dans les services de réanimation aussi, où on voit effectivement que la musique peut s'adapter de façon très globale et complémentaire aux soins au milieu hospitalier.
Et du coup, le fait de passer de la musique aux personnes, aux malades, ça fait quoi ? Ça fait qu'il y a moins de douleurs, il y a moins de prise de médicaments, vous le mesurez comment ?
Oui, alors ça, on le mesure différents types d'échelles, notamment la dernière étude qu'on a faite à l'hôpital américain de Paris, au bloc opératoire chez des patients qui subissaient une coronarographie, donc une sorte d'intervention cardiaque, qui est très stressante, très angoissante, chez qui on peut pas faire d'anesthésie générale. On associe en plus des hypnotiques et des sédatifs, donc du midazolam, des benzodiazépines, et donc il y a un groupe de patients à qui on associe de la musique, et le groupe qui consomment les médicaments plus la musique vont réduire de 60% les consommations de benzodiazépines. Pour arriver au même état de sédation qui est contrôlé par un outil qui s'appelle un indice bispectral, le groupe qui n'a pas la musique consommera 3 mg de benzodiazépine, alors que dans le groupe avec musique, 1 mg.
Moralité,
ce qui fait des différences vraiment très importantes.
La sécurité sociale devrait rembourser la musique. Alors on va poursuivre, mais je voudrais qu'on prenne Elena qui nous appelle de Biarritz. Bonsoir Elena.
Bonsoir.
On vous écoute Elena, bienvenue sur Inter.
Alors, bonsoir. Et moi, je voulais apporter mon témoignage, du coup, qui s'inscrit totalement dans ce que disent vos intervenants. Donc, moi, je suis atteinte d'un trouble bipolaire. Et on m'a proposé, dans le cadre de l'hôpital de jour, donc quand j'étais dans une dépression qui était très sévère, on m'a proposé un atelier de musicothérapie. Donc on était en petit groupe et je me rappelle particulièrement qu'on devait proposer chacun une musique et après donc écouter cette musique et après chacun notre tour dire les émotions qu'on avait ressenties dans cette musique. Et moi c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un à apprécier énormément la musique, donc d'autres types de musique, donc principalement le reggae et aussi le rap. Et ça m'a, à ce moment-là de ma dépression, j'écoutais plus de musique parce que pendant la dépression, toutes sortes de plaisirs disparaissent. Et à partir de ces ateliers que j'ai pu faire, ça m'a redonné goût à écouter de la musique et ça m'a redonné goût aussi dans la vie et dans ce que j'aimais. Et ça m'a conforté sur le fait que pour moi, la musique, c'était vraiment un vrai médicament. Et je continue à écouter encore plus de musique et j'essaye toujours d'aller écouter de la musique aussi en live, donc que ce soit dans des festivals ou des concerts. Et je ressors toujours de ces événements avec une bouffée d'oxygène. Et pour moi, c'est encore mieux que les médicaments qu'on peut me prescrire, quoi.
Merci beaucoup, Elena, pour ce témoignage. Hervé Platel, quand vous entendez Elena.
Je suis pas surpris parce que ça fait partie des témoignages comme l'a dit Stéphane. On en a des centaines et des milliers comme ça. Et ce qui est assez miraculeux avec la musique, c'est qu'en fait, en tant que intervention, on peut jouer sur deux aspects qu'il y a peu d'autres médias qui peuvent faire ça. C'est-à-dire, à la fois, vous pouvez vous servir de la musique pour la relaxation, donc diminuer le stress, diminuer la dépression, etc. Donc ça, c'est déjà se servir de la musique dans un contexte de relaxation, ça marche très très bien. Et donc Stéphane a parlé aussi que ça contribue potentiellement à pouvoir l'utiliser dans un contexte douloureux et diminuer la douleur ressentie. Mais en plus, la musique, on peut l'utiliser pour stimuler la cognition. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, le même média peut être utilisé à la fois pour calmer, pour relaxer physiologiquement l'individu, mais aussi éventuellement pour le stimuler. Et bien évidemment, les sportifs savent très très bien ça, parce que il y a beaucoup de joggeurs qui écoutent leur musique préférée pour se donner effectivement de l'entrain et aussi ne plus ressentir la douleur de l'effort, à tel point d'ailleurs que la musique est considérée comme un dopant dans les rencontres sportives et notamment donc les fédérations internationales, pour les marathons, etc., refusent que vous ayez des casques sur les oreilles parce que sinon vous n'êtes pas donc sur un pied d'égalité avec les autres participants.
Avec les autres. Stéphane, qui est une petite question sur les musiques elles-mêmes. Elena nous parlait de reggae et de rap. Mmh. Ça veut dire que c'est chacun qui fait sa playlist pour son bien-être, ou est-ce que ça marche avec toutes sortes de musiques?
Non, c'est très personnel et c'est pour ça qu'on a créé des questionnaires de préférences musicales et chacun est différent par rapport à ça. L'ensemble des études le montrent aujourd'hui. C'est le facteur prédictif de réussite, ce qui va faire que la séance va le mieux marcher, c'est que le patient choisisse la musique en fonction de ses goûts et de sa culture. Donc ça, c'est vraiment le critère principal. Ensuite, dans le traitement de la douleur, pour vraiment amener à cet état de relaxation et de plonger le patient dans un état modifié de conscience pour vraiment réduire les consommations médicamenteuses, ça, c'est plus sur les paramètres du son eux-mêmes qu'on va jouer, sur le tempo, on va jouer sur les fréquences, les harmonies. Mais peu importe le style de musique que le patient aime, ça pourra l'amener à mieux-être et à stimuler, comme le disait très bien Hervé, de la dopamine ou des neurotransmetteurs comme la les endorphines, qui sont des antidouleurs naturels.
Alors le paradoxe, c'est que effectivement, la musique appliquée à l'humain, c'est un objet culturel. Alors il faut vraiment l'entrevoir comme ça et le personnaliser au maximum pour que ça ait le maximum d'efficacité. Mais le paradoxe, c'est qu'en définitive, la musique a aussi un effet, je dirais, sur le corps, sur les organismes, même des animaux. Et pour les animaux, en fin de compte, la musique n'est pas un objet culturel. Et pourtant, il y a des expériences qui montrent que si on propose de la musique dont le tempo ralentit et qu'on fait écouter cette musique à des rats qui sont hyper tendus, des souches de rats hyper tendues, eh bien, ils vont, en fin de compte, se caler sur la baisse du tempo, de la pulsation de la musique. Et on voit très très bien, en fin de compte, que la tension artérielle diminue, en fin de compte, avec le ralentissement de la musique. Donc, il y a une forme de synchronisation assez universelle sur ce médium qu'est la musique, et donc il faut mieux comprendre quels sont les paramètres qui font véritablement effet au-delà des paramètres culturels.
On repart au Standard de France Inter. Xavier nous appelle de Nice. Bonsoir Xavier.
Oui, bonsoir. Alors, Fabienne, bonsoir à tous.
C'est clair le vendredi, mais c'est pas grave.
Pardon,
je ne vous en veux pas. J'ai l'habitude pour tout vous dire. Et on fait la même chose.
Allez. En fait, ma question était très simple, c'est que j'ai deux garçons qui eux font leur apprentissage au lycée, au collège, et ils étudient généralement avec un casque en écoutant de la musique. Je voulais savoir quelles étaient les incidences que ça avait en positif ou en négatif sur l'apprentissage justement.
Hervé Platel.
Il y a beaucoup d'études en fait qui montrent que ça peut être positif pour la concentration parce que et on le voit effectivement en open space, les gens qui travaillent en open space qui ont souvent des casques sur les oreilles en fait pour se couper du bruit ambiant et augmenter leur concentration et en général ils écoutent des choses qu'ils connaissent bien et qui va pas les distraire. Alors là en fait il y a deux profils. Il y a ceux qui ont l'habitude de mettre un casque sur les oreilles et d'écouter de la musique et ça peut augmenter leur attention, leur concentration, et ça peut les isoler du bruit ambiant, et c'est très positif. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, et je pense que c'est une très mauvaise idée de se mettre à vouloir écouter de la musique ou de mettre de la musique dans son environnement si ce n'est pas une habitude de travail, parce qu'au contraire, ça peut amener de la distraction. Et les personnes chez qui l'effet distracteur est le plus fort, ce sont chez les musiciens. Parce qu'un musicien, quelqu'un qui a un peu d'éducation musicale, qui entend de la musique dans son environnement, tout de suite, il a envie, en fait, il est capté par ça, il a envie d'analyser la musique.
Alors j'ai une question à vous poser Stéphane Guettin, vous nous dites que vous êtes musicothérapeute, à ce stade de l'émission j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'un musicothérapeute, est-ce qu'il y a un diplôme particulier, vous venez d'où, de la psychologie, de la musicologie, d'un diplôme particulier, dites-nous tout.
Un peu à toutes les frontières et le témoignage qu'on a entendu juste avant de Elena je crois, justement ça me permet de revenir sur ce point très très fort où elle disait que des soignants à l'hôpital lui proposaient d'amener son morceau et qu'elle pouvait en parler. Et pour moi la musicothérapie et le fait de ramener la musique à l'hôpital, ça dépasse bien plus juste l'effet de la musique en elle-même. C'est tout le lien social qui va se créer autour de cette musique et la relation thérapeutique qui va s'établir entre le soignant et le patient. Et cette relation est fondamentale puisque le premier traitement de la douleur, qui est le sujet dans lequel je travaille depuis des dizaines d'années, le premier traitement de la douleur, c'est l'écoute de la personne. Et c'est pour ça qu'avec Musicaire, on a choisi cette solution thérapeutique qui est basé sur de l'écoute musicale, pour pouvoir permettre surtout aux patients de verbaliser et d'exprimer toutes ces émotions.
Mais vous ne m'avez pas répondu quand même sur le diplôme de musicothérapeute.
Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut une formation justement pour pouvoir entretenir et mettre en place.
Il faut être musicien soi-même quand même.
Il faut être musicien, il y a des cours de psychologie, donc aujourd'hui c'est 3 ans d'études qui se passe dans une des 5 universités qui sont reconnues de la Fédération Française de Musicothérapie. Et c'est à partir de là qu'on peut se dire musicothérapeute et utiliser le terme de musicothérapie. Alors c'est encore un statut qui est en train de se chercher, mais qui est aujourd'hui développé au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre, dans pas mal de pays européens. En France, on est encore un peu en retard, mais aujourd'hui, les études scientifiques font accélérer les choses et j'espère très sincèrement que les musicothérapeutes et les art-thérapeutes auront prochainement un vrai statut qui feront qu'ils seront professionnels au même titre qu'un ergothérapeute, qu'un kinésithérapeute ou qu'une infirmière.
Alors vous avez une collègue qui est au bout du fil là, Stéphanie Lefebvre, elle est musicothérapeute. C'est bonsoir à vous Stéphanie Lefebvre.
Bonsoir.
Alors vous intervenez auprès des bébés prématurés en néonatologie. Tout à l'heure, Stéphane Guettin nous disait faut dialoguer avec le patient. Alors, je ne sais pas comment on dialogue avec des petits prématurés. Expliquez-nous tout. Vous faites ça donc à l'hôpital de Senlis.
Oui, et bien justement, c'est à travers le langage musical qu'on va communiquer avec ces petits bébés qui sont nés trop tôt, parce que c'est justement ce langage-là qu'ils comprennent. Et c'est pour ça que la musique est si importante dans nos vies, et qu'elle peut être utilisée tout au long du parcours de soins d'une personne jusqu'à ce qu'elle soit très âgée, parce que je travaille aussi auprès des personnes très âgées en maison de retraite médicalisée. Et donc voilà, le premier langage, c'est le langage musical. Et donc j'adresse la voix chantée à ces enfants, parce que la voix de leur maman et de leur père et de leur famille, c'est vraiment celle qu'ils préfèrent.
Vous leur faites écouter ces voix-là? Vous les enregistrez, ensuite vous leur faites écouter? Comment ça se passe?
Non, je travaille de façon live, c'est-à-dire que j'adresse ma voix chantée de façon adaptée à l'état de veille, de sommeil de l'enfant, en fonction de ses rythmes, de son état ou d'apaisement ou d'agitation. Et donc, ça va être absolument toujours contingent à ses réponses comportementales. C'est-à-dire qu'on peut observer chez des tout-petits, à des 32 semaines, des minutes de sourire, une ouverture des yeux, des étirements. Voilà. Et c'est vraiment un langage corporel que le bébé investit à l'écoute de la voix.
Et ça va participer au développement cognitif de ces tout petits bébés?
Absolument, parce que l'être humain se développe sur le plan cérébral dans un milieu intra-utérin qui est absolument sonore, avec le rythme du battement cardiaque de la mère, le flux respiratoire, le flux sanguin, et aussi les voix de sa mère, de son père, de sa famille, qui perçoit à travers la barrière abdominale. Et c'est toutes ces stimulations sonores participent à la construction de son cerveau. Et ce sont ces stimulations dont il est privé lorsqu'il naît prématuré, et qu'on va essayer de reconstituer de façon écologique, c'est-à-dire la plus naturelle possible, pour aussi contrevenir le bruit des machines, des alarmes qui sont souvent trop aiguës, inattendues, et qui vont le déstabiliser.
Une dernière question, Stéphanie Lefebvre. Ce que vous faites, vous, avec ces petits bébés, c'est quelque chose d'exceptionnel, ou c'est quelque chose qui a tendance à se développer, ou est-ce que ça pourrait être plus développé dans les différents services concernés?
Alors, c'est assez anecdotique en France, et c'est assez contradictoire, parce que c'est un des domaines de la musicothérapie qui est le plus investi sur le plan de la recherche. Il y a des méta-analyses qui sont publiées, il y a énormément de recherches, notamment un centre aussi à Stockholm, qui une maternité qui est à la pointe et qui œuvre pour qu'il y ait davantage d'interventions de musicothérapeutes dans les services. C'est vraiment une pratique qui est très préventive pour les enfants, et assez décisive, et qui mériterait de se développer davantage.
Merci beaucoup, Stéphanie Lefebvre, pour cette intervention ce soir sur France Inter. Pour prolonger ce qu'on vient d'entendre, est-ce que la musicothérapie, la musique, est bénéfique à tous les âges de la vie? Je ne sais pas qui veut répondre. Stéphane Guettin, Hervé Platel.
Je voudrais juste rebondir, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut dire à nos auditeurs que la recherche de ce point de vue-là a fait des progrès immenses, et notamment grâce aux techniques de neuroimagerie. Et pour l'exemple, effectivement, des enfants prématurés, il y avait de plus en plus d'interventions de terrain, mais c'est vrai qu'on manquait un peu de preuves scientifiques pour être capable de dire, au bout de quelques mois ou de quelques années de vie, oui, en fin de compte, ces enfants qui ont eu ce type d'intervention ont eu un développement, un neurodéveloppement, un développement du cerveau plus favorable que des enfants qui n'auraient pas eu ce type d'intervention. Et là, il y a quelques semaines, il y a pour la première fois une étude qui vient de sortir, avec justement une mesure de neuroimagerie qui a permis de démontrer que le cerveau des enfants qui avaient eu une intervention musicale, eh bien, du point de vue de la maturation cérébrale, retrouvait en fin de compte une normalité dans la trajectoire de développement. Et ça, c'est très important, parce que la question qui se pose, c'est d'aider effectivement ces bébés prématurés dont on sait qu'ils ont beaucoup plus de risques d'avoir des maladies neurodéveloppementales comme la dyslexie ou l'autisme, de les ramener vers une trajectoire beaucoup plus favorable.
Alors vous travaillez dans un laboratoire de l'INSERM à Caen, c'est ça,
oui.
Hervé Platel. Vous mesurez aussi ce genre de choses plutôt sur des personnes âgées, non?
Alors, nous, on s'intéresse à la fois au vieillissement normal et pathologique, et effectivement, comment la musique peut intervenir pour pallier ou stimuler les troubles de mémoire. Et chez les patients Alzheimer, on montre très très bien qu'en fin de compte, la mémoire musicale, malgré l'amnésie qui est de plus en plus marquée avec cette pathologie, eh bien, la mémoire musicale, elle résiste parfaitement, en fin de compte, dans cette maladie. Et on peut s'appuyer sur cette mémoire musicale, même pour démontrer qu'il y a encore des apprentissages possibles, notamment l'apprentissage de mélodies de nouvelles chansons chez des patients très amnésiques. Et ça, c'est tout à fait original. Et on a une étude de neuroimagerie qui essaye, là, qui vient de se dérouler, qui essaye de mieux comprendre par où ça se passe dans le cerveau pour que de tels apprentissages aient lieu, alors même qu'on pensait qu'un patient Alzheimer à un stade avancé, son cerveau était dans la capacité de maintenir une information nouvelle.
Stéphane Guettin, vous travaillez-vous avec des établissements hospitaliers, en établissement hospitalier, vous travaillez aussi avec des maisons de retraite, des EHPAD ?
Oui, beaucoup. On travaille avec toutes les EHPAD de la ville de Paris, on travaille avec plus d'une centaine d'EHPAD. Et ça a été c'est toujours d'actualité, un de nos sujets de recherche les plus importants pour nous.
Et pareil, vous dites, comme on entendait tout à l'heure, que ça pourrait se développer encore plus, c'est ça?
Exactement. Ça se développe de plus en plus. Il y a 10 ans, il y avait quasiment aucune EHPAD qui utilisait des musicothérapeutes ou des interventions musicales. Aujourd'hui, dans les EHPAD, la musique quand même vraiment a bien rentré et on prend conscience de l'importance de la musique et des arts de façon générale dans les EHPAD.
On va prendre un nouvel appel, c'est Jean-Louis qui est au bout du fil au Standard de France Inter. Bonsoir Jean-Louis.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous.
Bonsoir, merci à toute l'équipe de France Inter. Un témoignage simplement avec un peu d'émotion. Il y a quelques années, 4 ans exactement, j'ai été victime d'un grave accident de la route, polytraumatisé. Je n'étais pas opérable de façon traditionnelle sur les anesthésies générales. Et l'équipe du CHR de Toulouse, Turpin m'a proposé la musicothérapie après quelques séances de sophrologie. Et j'ai donc accepté, non sans difficulté, et donc toute cette équipe-là m'a proposé de choisir les thèmes musicaux. En l'occurrence, j'ai choisi un thème musical pour les infirmières du bloc, pour l'équipe chirurgicale et également donc pour moi-même. Alors, c'est Vivaldi, Bachung et John Lennon. Ça, c'est pour la petite histoire, mais c'est aussi une façon aussi aujourd'hui, 28 juin, de rendre hommage aux bienfaits de la musique dans les ondes et pour chacun. Simplement, donc, ça s'est très très bien passé. L'opération a duré très très longtemps. Et donc, j'ai bénéficié d'une thérapie donc au niveau donc d'un anesthésie très très locale. Et ça s'est très bien passé. Et donc, la musique, je témoigne, m'a fait beaucoup de bien et m'a sorti de grandes difficultés.
Super témoignage Jean-Louis, on vous remercie mille fois d'avoir appelé ce soir. Hervé Platel, petite question, parce que là il s'agit de l'influence de la musique sur le patient, mais j'ai vu qu'il y avait des chirurgiens aussi qui opéraient en musique. Mais pour oui. Eux-mêmes, pour leur performance. Ben là,
ouais, j'ai découvert ça et en fait, ce sont des infirmiers qui m'ont alerté et notamment des infirmiers qui m'avaient contacté pour faire leur mémoire donc de fin d'études sur l'utilisation de la musique en bloc opératoire. Et donc, j'ai découvert que beaucoup de chirurgiens effectivement proposaient à leurs équipes de travailler en musique. Et ben, on parlait tout à l'heure de l'apprentissage donc avec la musique et que ça pouvait aider à l'attention, à la concentration. Bon, ben si effectivement c'est bien choisi, je pense qu'il peut y avoir un vrai effet de cohésion de groupe augmenté dans ce contexte-là.
Voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, voilà. Stéphane Guettin.
Très, très, très bien choisi, il faut que ce soit adapté au goût du chirurgien et des équipes.
On se dit, bon, un chirurgien qui travaille sur du reggae, du métal, bon, on peut s'inquiéter, mais bon, voilà.
Petite question, ça c'est Anissa Parmel qui nous dit « Quid de l'influence des paroles associées à la musique ?» Est-ce qu'elles ont une influence ou pas
Alors là, je vais laisser Hervé répondre, parce que dans notre protocole de méditation, nous c'est sans paroles, justement pour pas qu'il y ait de texte. Après, il peut y avoir des voix,
Hervé mais Platel, pas... Alors,
Les paroles, c'est intéressant parce que, évidemment, je dirais la musique populaire, souvent la chanson. Hein, je parlais tout à l'heure de Satisfaction des Beatles, des Rolling Stones.
Non, on vous en veut pas.
Non, mais bon, voilà. Mais les Beatles ont bien existé. Hein, donc, et les Rolling Stones aussi. Donc là, les paroles, c'est important parce que chez beaucoup de personnes, c'est aussi un lieu, un domaine, effectivement, d'émotion très très forte. Donc, et on a entendu l'auditrice tout à l'heure, elle disait qu'elle aimait le rap, etc. Donc, il y a les paroles scandées, il y a la scansion des paroles, il y a un rythme, il y a quelque chose. Donc, le contenu textuel, il ne faut pas l'ignorer. Et je pense que ça a une vertu, mais évidemment, c'est compliqué. Et dans notre cerveau, on peut dire que les deux sont associés dans une chanson, mais qu'en même temps, on peut se souvenir indépendamment de l'un de l'autre.
Alors, moi, j'ai une question maintenant, parce qu'on a beaucoup parlé d'écouter de la musique, mais j'aimerais qu'on dise un mot quand même de la pratique de la musique.
Bah oui, il va y avoir des musiciens ce soir.
Oui,
quand
oui,
même.
Mais c'est important parce que je pense que ça, le fait de pratiquer de la musique, ça a aussi une influence sur l'état de santé des gens, puis sur peut-être sur leur mémoire, leurs émotions. C'est bénéfique là aussi.
Alors, c'est là où les neurosciences, en fin de compte, cognitives, ont montré effectivement les premiers effets de la musique. C'est en s'intéressant aux musiciens comme modèle pour comprendre les effets qu'on appelle de neuroplasticité. C'est comment notre cerveau se modifie avec, en fin de compte, des pratiques et des expériences. Et en fait, on a été très, très surpris de voir à quel point ce type de pratique, la musique, pouvait modifier très largement le cerveau des musiciens. Alors, on s'attend à voir quoi ? On s'attend à voir que un musicien, avec des dizaines d'années derrière lui, eh bien, il a ses régions auditives qui sont modifiées, qui deviennent effectivement particulièrement précises dans l'analyse. Ces régions motrices, parce que s'il s'agit de maîtriser un instrument de musique, c'est important. Mais nous, quand nous avons fait des études de neuroimagerie, notre première surprise, c'était de voir à quel point aussi les musiciens avaient des modifications dans les régions de la mémoire. Et parmi les régions de la mémoire, il y a des régions qu'on appelle les hippocampes, comme les petits animaux, donc ils ont cette forme particulière. Et ces régions sont très très importantes dans notre capacité de mémorisation, puisque ce sont justement ces hippocampes qui s'atrophient dans la maladie d'Alzheimer. Et qui provoque l'amnésie.
Alors, c'est peut-être ça aussi qui peut expliquer pourquoi les enfants qui pratiquent la musique ont de bons résultats scolaires, sont bons en langue, bons en maths.
Il y a tout un tas de facteurs. Il y a tout un tas de facteurs. Il y a aussi le solfège. Il y a tout un tas de conditions qui peuvent expliquer pourquoi il y a un effet, effectivement, un transfert sur les capacités cognitives d'apprentissage de manière générale. Parce qu'on a parlé aussi du fait que ça pouvait augmenter la concentration, l'attention, etc. Mais il y a un effet tout à fait réel sur la mémoire, à la fois immédiate et les capacités de mémoire à long terme. Et notamment sur la fluidité, le contrôle de la mémoire. Et c'est ce qu'on a montré chez les musiciens âgés. En fait, les musiciens âgés, c'est pas forcément qu'ils ont une plus grande mémoire, mais c'est qu'ils ont une mémoire qui fonctionne de manière plus efficace et plus fluide.
Quand vous dites musicien âgé, c'est à condition qu'ils aient commencé à pratiquer, ou est-ce qu'on peut commencer à tout âge avec un effet bénéfique ?
C'est ça tout l'intérêt. Alors, il n'y a pas suffisamment de travaux, à mon goût, effectivement, pour arriver à croiser ces bénéfices et leur durabilité à tout âge de la vie. Mais le peu de travaux qui existent montrent effectivement qu'il n'y a pas d'âge pour avoir des bénéfices. Alors, l'écoute est déjà en soi un bénéfice, on l'a dit, mais la pratique d'autant plus parce qu'il y a un vrai effort de concentration, d'attention. De mémorisation.
Et puis d'ailleurs, il y a des témoignages dans les maisons de retraite. Hein. On nous dit bien que les chorales en maison de retraite, ça fait du bien à tout le monde.
Il y a un exemple très facile, effectivement, sur Stéphane mémoire Guétin. Et musique. La première chose qu'on fait pour apprendre l'alphabet à son enfant, notamment en anglais, c'est le faire en chantant. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est le lien affectif, c'est l'affectif, l'émotionnel qui fait qu'on va graver la mémoire et qu'on va se souvenir de quelque chose. C'est ce qu'on appelait à l'époque le flashball memory, où on demande où est-ce que vous étiez le 11 septembre 2001. L'émotion fait que vous vous souvenez d'où vous étiez. Et donc, en apprenant l'alphabet par une mélodie, qui a un lien affectif, on va le mémoriser 3 fois plus vite que si on apprenait l'alphabet sans le chanter, par exemple.
Stéphane Guétin, encore une collègue à vous, au Standard de France Inter. Ce soir, tout le monde s'est donné le mot. Catherine, bonsoir à vous. Vous êtes à Nantes et vous êtes musicothérapeute.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Oui, je voulais apporter mon témoignage. Donc, je suis musicothérapeute. J'ai un DU comme vous le précisiez tout à l'heure. Et je voulais apporter mon témoignage parce que moi, je travaille en pédopsychiatrie avec des équipes soignantes, vraiment en partenariat avec les équipes, avec des enfants qui ont des troubles graves du développement. Certains sont des enfants autistes avec très très peu de langage. Ce sont des enfants petits, à part 2-3 ans. Jusqu'à 5 ans, et qui ont souvent des troubles du comportement assez importants aussi. Et la musique, ça permet vraiment à ces enfants d'être dans du langage, parce que le langage musical, c'est un autre langage, mais c'est vraiment du langage, d'avoir une passerelle vers le langage verbal aussi, de les apaiser aussi, parce que ce sont des enfants qui ont beaucoup, beaucoup d'angoisse, et l'enveloppe sonore, ça permet vraiment, le bain sonore, de les de les contenir, de les apaiser, et ça permet aussi à ces enfants d'être beaucoup plus en lien entre eux. Et ça c'est vraiment très très important aussi dans cette médiation. Et je voulais juste aussi ajouter que moi je travaille avec des équipes, plusieurs équipes dans des hôpitaux de jour en pédopsie, qui sont très très partie prenante pour cette médiation, qui soutiennent beaucoup, qui sont très heureux aussi de travailler avec un musicothérapeute, et c'est vraiment quelque chose qui les motive énormément. Et ça, je pense que c'est important, parce que c'est vraiment des équipes psychiatres, psychologues, infirmiers, éduques, qui sont très partie prenante là-dedans et qui soutiennent vraiment cette médiation.
Merci mille fois Catherine pour ce témoignage qui rejoint évidemment ce que nos invités nous disent depuis le début. Hervé Platel, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose?
Oui, en fait, il y a un aspect qui intéresse de plus en plus aussi la recherche et évidemment qu'il y a des applications directes d'un point de vue pédagogique, parce que évidemment beaucoup d'études ont insisté sur le fait que pratiquer la musique chez l'enfant pouvait permettre avoir des bénéfices d'un point de vue des apprentissages scolaires, mais ce sur quoi on peut mettre aussi la focale, et notamment même avant, en fin de compte, l'âge de 7 ans, à la maternelle et même dans les crèches, c'est qu'en fait, la musique et faire de la musique ensemble, c'est vraiment augmenter le lien social, et c'est un travail, effectivement, en fin de compte, la musique, c'est quelque chose qui vous permet de vous synchroniser avec l'autre, et beaucoup de travaux s'intéressent à la manière dont la musique augmente la cohésion sociale, et chez l'enfant, vous permet, en fin de compte, à l'enfant d'imaginer ce que ressent l'autre, et donc augmente son empathie et sa capacité à être avec les autres.
On rejoint ce que vous disiez au tout début de l'émission, Stéphane Guettin, sur le rôle social de la musique. Et ça, c'est quand même important qu'on en dise un petit mot, parce que la musique agit au niveau de chacun, mais elle agit aussi en interaction entre nous tous.
Exactement. Bah, tout ce qui est basé sur le langage vient avant de la musique, avant même qu'on trouve du sens à tous les sons qu'on sort. Tout était musical, on parlait par des onomatopées, du rythme. Et aujourd'hui, donc moi ce que j'ai tout simplement envie de rajouter, c'est qu'à partir du moment où on est, quand on apprend à marcher, l'équilibre, on fait de la musique, il faut marcher en rythme, quand on apprend à parler, on fait de la musique, et tout ce qu'on fait autour de nous, en fait, est très musical. Et donc c'est pour ça que, pour rejoindre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, depuis du plus jeune âge, on peut bénéficier de séances de musicothérapie ou se servir de la musique comme projet éducatif et pédagogique, jusqu'à la fin de l'évolution de la maladie des personnes les plus âgées, maladie Alzheimer, où il n'y a plus de capacités restantes comme le langage, la cognition, où la musique, elle, est encore préservée jusqu'à la nuit, jusqu'au bout de l'évolution.
Alors, j'ai découvert en préparant cette émission que, par exemple, la Suisse a inscrit l'éducation musicale dans la Constitution en tant que droit fondamental de chaque enfant. Hervé Platel, ça oui. Fait partie des choses importantes de la vie auxquelles on devrait tous avoir accès, c'est ça?
Complètement. Je pense que c'est un droit fondamental. Je pense que c'est une expérience sociale, je dirais fondamentale et majeure, qu'il faut inscrire donc à l'intérieur, effectivement, des projets éducatif des nations, car c'est vraiment ce qui va permettre aux enfants du futur de pouvoir vivre ensemble et de pouvoir aussi avoir de l'imagination ensemble. Parce qu'il va en falloir de l'imagination pour le futur.
Voilà, et quand par exemple notre ministre de l'Éducation nationale nous dit qu'il veut une chorale dans chaque établissement scolaire, ça va dans le bon sens.
Ça va dans le bon sens, je pense qu'il faut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, parce qu'on pense souvent que toute l'éducation artistique au niveau de l'éducation nationale, ça arrive un peu comme la cerise sur le gâteau donc de l'éducation, et la musique fait partie de cette cerise, de cette petite bout de cerise, et je pense qu'en fait on n'a pas compris que l'éducation artistique, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau.
Voilà, ça c'est une magnifique conclusion, Hervé Platel. Le mot de la fin sera pour vous, Stéphane Guettin.
C'est comparer, moi, la musique avec le sport. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle, c'est Platon qui disait ça, et un des plus bels espoirs que j'ai eu, c'est que depuis octobre 2018, le sport est reconnu par la sécurité sociale et fait partie d'un vrai traitement, l'activité physique, pas le sport. Et la musique est quelque part la médecine de l'âme. Donc le sport, la médecine du corps, la musique, la médecine de l'âme. Et j'espère qu'on y arrivera bientôt.
Voilà, morale de l'histoire, faites de la musique et allez écouter de la musique, c'est le jour ou jamais de toute façon. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à ceux qui étaient de l'autre côté de la vitre ce soir, qu'ils en soient tous remerciés. C'est la fin.